Debout, fameux esclaves.
Tralala Boum, une émission qui parle de chansons et de politique. Et de lendemains qui chantent. Sur Radio Transparence.
Bonjour et bienvenue dans Tralala Boum, l'émission qui vous parle de politique, de musique et d'histoire. Aujourd'hui, on poursuit notre voyage autour du jazz comme arme politique. On part au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les tensions d'un nouveau conflit s'annoncent entre le communisme socialiste du bloc soviétique et le capitalisme des États-Unis. Les deux puissances s'affrontent désormais sur des domaines culturels et idéologiques. C'est la guerre froide, une guerre d'idées, de propagande et d'images. Et dans ce contexte, en 1956, les États-Unis mettent au point une nouvelle arme inattendue contre l'Union soviétique, c'est le jazz. En envoyant Louis Armstrong, Duke Ellington, Dizzy Gillespie ou Dave Brubeck faire des tournées internationales en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, les États-Unis veulent gagner les esprits par la musique. On débute tout de suite cette émission en écoutant un de ses ambassadeurs du jazz, Duke Ellington. Avant 1956, le jazz était connu derrière le rideau de fer grâce à sa diffusion sur une radio américaine internationale appelée Voice of America. Et le jazz était notamment très popularisé par une émission qui s'appelait Jazz Hour et qui était présentée par Willis Conover. Willis Conover va devenir la voix du jazz américain. On affirmera même qu'il a joué un rôle majeur dans la lutte contre le communisme par sa promotion du jazz. On écoute un tout petit extrait de cette émission Jazz Hour avec la voix de Willis Conover.
It's now 10:15 p.m. Eastern Standard Time. Willis Conover is next with jazz. Thank you.
time for jazz. Willis Conover in Washington, D.C. with The Voice of America Jazz Hour.
Mais l'engouement clandestin pour le jazz parmi les jeunes communistes sert aussi à la propagande soviétique. La musique jazz est le moyen idéal de critiquer les États-Unis, puisque les soviétiques dénoncent la ségrégation et le racisme dont sont victimes les Noirs américains. Face à ce coup majeur porté à l'image de la démocratie américaine, les États-Unis décident donc de riposter avec l'arme de leur crime, c'est-à-dire le jazz. En 1956, donc, le membre du Congrès, Adam Clayton Powell Jr., qui est fan de jazz et qui est aussi député de Harlem, propose donc de se servir du jazz afin de contrer la propagande soviétique anti-américaine. L'idée est toute simple, c'est d'envoyer les plus grands artistes du jazz américain en tant qu'ambassadeurs à l'étranger dans des pays où l'alliance à l'est ou à l'ouest n'est pas encore décidée, afin d'exposer les valeurs de la démocratie américaine. Ce sont donc les jazz ambassadors. Donc, on va les voir se produire à l'étranger avec des groupes où se mêlent musiciens blancs et noirs. Et voilà, le gouvernement américain veut redorer un peu son blason face aux critiques soviétiques. Et le premier ambassadeur, c'est le trompettiste Dizzy Gillespie, qui déclare à la presse avant de partir en tournée « L'arme que nous utiliserons sera celle du cool ». Il part donc, Dizzy Gillespie, avec son orchestre de 18 musiciens pour une tournée de 10 semaines en Iran, Pakistan, au Liban, en Turquie ou en Yougoslavie. Et la tournée est un succès. On écoute Dizzy Gillespie, Manteca. Toujours sur Radio Transparence, aujourd'hui dans Tralala Boom, on parle des Jazz Ambassadors. Et bien voilà, à partir de 1956, les plus grands noms du jazz sont demandés pour aller partager leur musique à l'étranger au nom de leur pays. Duke Ellington donc, mais aussi Dave Brubeck ou bien l'illustre Louis Armstrong porteront donc tous le rôle d'ambassadeur du jazz. Et Louis Armstrong sera d'ailleurs accueilli comme un roi en Afrique, en particulier au Congo en 1960, où il est porté sur un trône dans les rues. On écoute Louis Armstrong, Moon River.
Moon River, wider than the mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you are going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows in waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me. Thank you.
En 1962, c'est le clarinettiste Benny Goodman qui est envoyé en tournée. En particulier, il est envoyé derrière le rideau de fer en URSS. Et il joue même pour le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev qui avouera à la fin du concert de Benny Goodman ne pas trop aimer le jazz. On écoute Memories of You, Benny Goodman. On peut se demander pourquoi des artistes noirs, toujours victimes de discrimination dans leur pays, acceptent ainsi de véhiculer l'image mensongère d'une Amérique pionnière de la liberté et de l'égalité. Alors que le mouvement des droits civiques prend de l'ampleur, les musiciens vont souvent être gênés de chanter les louanges de ce pays ségrégationniste et ils vont parfois retourner cette mission en leur faveur. Dizzy Gillespie, qui est donc le premier ambassadeur à avoir commencé les tournées, lui s'est positionné dès le départ en 1956. Il avait précisé qu'il ne mentirait pas à son public quant à la situation civique aux États-Unis. Et puis Louis Armstrong, lui, en 1957, refuse de partir en tournée en Union soviétique parce que 9 lycéens noirs n'ont pas pu intégrer une école pour blancs à Little Rock, en Arkansas. Et il accuse le président Eisenhower de manquer de tripes. « J'en ai plus qu'assez de la manière dont les Noirs sont traités dans le Sud », dira Louis Armstrong. Donc du coup, deux semaines plus tard, face à la pression, Eisenhower envoie la garde nationale à Little Rock afin d'assurer que les élèves afro-américains puissent entrer en toute sécurité dans leur établissement scolaire. Armstrong décidera alors de continuer à servir comme ambassadeur du jazz. Louis Armstrong et Dave Brubeck, aussi de retour de leur tournée, vont composer une comédie musicale intitulée « The Real Ambassadors ». Ils tentent de pointer les ironies du programme en évoquant le mouvement des droits civiques, en ayant une vision très critique des États-Unis et de leur politique ségrégationniste. Mais ces tournées des ambassadeurs du jazz auront aussi une conséquence inattendue, celle d'inspirer les artistes et de faire évoluer leur musique. Ainsi, Duke Ellington, en 1963, fera une immense tournée à Beyrouth, Téhéran et Bagdad. Il expliquera que c'est la plus grande expérience musicale de toute sa vie et il composera un album, Far East Suite, inspiré de la musique écoutée dans ces pays. Et Dave Brubeck va lui aussi bouleverser le jazz en y mêlant des éléments du folklore turc, grec ou bulgare dont il s'est imprégné pendant ses tournées. Il découvre notamment lors de son séjour en Turquie une chanson folklorique qui lui inspire le célèbre morceau Blue Rondo à la turque.
Thank you.
La boum, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve les mercredis à 17h30 et les vendredis à 14h. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou bien des critiques sur la page Facebook de Radio Transparence. À très bientôt.